À toi, donc à Pierre de Caisse.
Oui, je voudrais commencer par le concept de revenant. Marx, en effet, avait commencé le manifeste par cette phrase fameuse « Un spectre hante l'Europe, c'est le spectre du communisme ». Et Derrida était reparti sur cette très belle phrase en disant que le spectre, c'était Marx lui-même, parce que Marx revenait dans une cyclicité qui en elle-même est très intéressante parce qu'elle est liée à mon sujet un peu particulier, à la cyclicité et au retour périodique des crises de surproduction. Et donc il y a un lien entre ce revenant qu'est Marx et ces revenants que sont les crises liées à ces cycles que Marx a étudié lui-même. Donc je voudrais simplement faire deux choses. D'abord essayer de résumer en quelques traits une théorie très, très compliquée qui est la théorie des crises et du cycle de Marx, et puis ensuite essayer de voir si c'est intéressant aujourd'hui dans la crise que nous connaissons, s'il y a un rapport entre ce qu'il pouvait écrire dans les années 50-60 du siècle précédent, enfin même du siècle précédent, c'est une façon de parler, de deux siècles avant si on peut dire, et voilà les deux idées que j'ai. Alors sur les théories de Marx, de la crise et du cycle, je voudrais simplement reprendre cinq points, encore une fois, en résumant énormément une pensée très, très complexe. Premier point, Marx a eu une attention permanente aux crises et aux cycles économiques. Il l'a eu très précocement, en partant des crises de 1848, qui avaient été très violentes, très importantes, de la crise de 1857 également. Et cette attention qu'il avait était une attention de publiciste, comme on disait, autant que de théoricien, de journaliste engagé, pourrait-on dire. Et après, le même Marx a fait des études, des analyses, des crises qui sont parfois contradictoires, car il n'y a pas une théorie de Marx unifiée des cycles et des crises. Il a été probablement l'un des premiers, peut-être le premier à étudier la cyclicité et à penser la cyclicité, ce retour périodique des crises. Ça, c'est important. Et il faut noter aussi qu'il a mis les crises en relation avec le destin même du capitalisme, en envisageant des crises de plus en plus graves à mesure que le capitalisme entrait en maturité et que finalement les crises participeraient de la crise finale du capitalisme lui-même. Non pas que ce soit la cause profonde de la disparition de ce mode de production, mais comme il l'expliquait avec Friedrich Engels, ça aide les crises à faire sentir au capitalisme que les moments de sa fin approchent. C'était un peu la vision millénariste que Marx pouvait avoir, puisque dès 1848, il croyait que le capitalisme allait disparaître, alors que quelques années plus tard, on en est toujours à penser à la fin du capitalisme ou à sa maturité. Il n'a pas fait de théorie unifiée de la crise, mais il envisageait de le faire. Et je voudrais simplement donner le titre qu'il avait pensé à un livre futur du Capital. Il envisageait d'étudier les crises et le marché mondial. Les crises et le marché mondial. Il y a une idée qui est très forte et très intéressante de faire ce lien entre le processus de mondialisation qui était à l'œuvre de son temps et les crises économiques, comme nous pouvons faire aussi un lien entre un autre processus de mondialisation et les crises. C'est mon premier point. Le deuxième, Marx pense profondément les crises comme l'expression, et je cite une expression de Karl Marx lui-même, les crises sont l'expression de la révolte des forces productives. Elles sont inhérentes au fonctionnement du capitalisme à maturité. Et ça, c'est tout à fait essentiel, j'y reviendrai. Pour Marx, crise et croissance capitaliste ou accumulation du capital sont intrinsèquement liées. C'est la même chose, en quelque sorte, c'est le même phénomène qui impose l'accumulation permanente du capital et qui produit les crises et cette périodicité, ces cycles économiques, comme on le dira ultérieurement. Le troisième point sur la dimension monétaire et financière des crises dans la pensée de Marx. C'est un point important, essentiel, à l'époque, en théorie, dans son œuvre et plus tard, et aujourd'hui. Les causes profondes des crises ne sont pas monétaires et financières. Mais la monnaie et la finance jouent un rôle crucial. Quel rôle ? D'abord, la monnaie est une condition des crises. C'est du fait de l'existence de la monnaie qu'il y a possibilité de crise. Mais comme il le note, la monnaie et les phénomènes monétaires, crédit lui-même, sont bien antérieurs au développement des crises capitalistes qui, elles, sont datées, pense-t-il, à juste titre, sous la forme avec laquelle il les étudie, sont datées du début du 19e siècle. Surtout, il pense que l'excès de crédit et la spéculation sont inhérentes à toutes les périodes de surproduction. Quand il y a période de surproduction de marchandises, nécessairement, il y a développement du crédit, développement aussi de la spéculation financière. Ensuite, il explique que l'excès de crédit et la spéculation fournissent un palliatif aux difficultés de l'accumulation du capital. Et c'est un point qu'il faudrait pouvoir développer beaucoup plus longuement. Et j'en dirai quelques mots simplement. Enfin, les questions financières et la spéculation ont un rôle déterminant dans l'irruption de la crise, d'une part, et comme il le dit, la monnaie et la spéculation lié à l'excès de crédit, joue un rôle décisif en augmentant la violence des crises. Donc, bien situer les choses et replacer monnaie, finance, spéculation à leur place dans l'analyse de Marx. Quatrième point, qui est difficile aussi à percevoir, parce qu'on imagine toujours Marx mettant l'accent sur le pouvoir d'achat des masses, et en particulier des masses laborieuses, des travailleurs, des prolétaires. La crise n'est pas une crise de sous-consommation, en tout cas pas une crise de sous-consommation simple. Et les questions comme l'inégalité dans la répartition ne forment pas la cause de la crise. Engels et lui sont très précis là-dessus et avec leur style habituel, ils ironisent durement sur ceux qui peuvent croire que la crise est liée à la sous-consommation ouvrière, expliquant même d'ailleurs à un moment donné que les crises sont généralement précédées par une augmentation des salaires plutôt que par une diminution des salaires. Ils sont plus proches de ceux qui ont tendance à penser que la crise est liée, je vais en dire un mot, à la baisse du taux de profit. En revanche, Il y a chez Marx une analyse extrêmement intéressante, difficile, de ce qu'on appelle avec lui les crises de réalisation. Crise de réalisation, c'est les crises de la réalisation de la valeur telle qu'elle se présente au départ comme intégrée dans la marchandise elle-même. Et la crise de réalisation, c'est ce moment où la valeur qui est dans la marchandise se réalise sur les marchés, c'est-à-dire tout simplement est vendue. Et ces crises de réalisation jouent un rôle important, même si c'est un rôle peut-être annexe dans la théorie des crises de Marx. En particulier, la crise de réalisation correspond à l'effondrement de l'illusion d'une croissance qui pourrait se construire exclusivement sur le dynamisme de l'accumulation du capital, sur le dynamisme de l'investissement. Le cinquième point, c'est l'aspect essentiel. C'est l'idée que les crises sont liées au processus, au process d'accumulation du capital. Et comme je le disais tout à l'heure, crise, croissance sont intrinsèquement liées. Crise, croissance dépendent de l'accumulation du capital. Et les crises sont dès lors fondamentalement des crises de suraccumulation du capital liées aux conséquences de cette suraccumulation du capital, qui elle-même est évidemment périodique, se traduit par la baisse du taux de profit. D'où la loi hyper célèbre, une des lois les plus célèbres de Marx, qui était la loi de baisse tendancielle du taux de profit. Mais, et c'est un point important, rarement souligné, s'il y a suraccumulation du capital, s'il y a tendance à la baisse du taux de profit, dans l'analyse de Marx, comme d'ailleurs dans l'analyse de son maître en économie, David Ricardo, cette baisse du taux de profit devrait se produire comme un amortissement régulier à mesure qu'il y a suraccumulation du capital, en capital constant, c'est-à-dire essentiellement, disons, en machines et en matières premières. Or, au lieu d'avoir un amortissement régulier du taux de profit qui diminuerait régulièrement, on a des crises. Comment est-ce possible qu'il y ait des crises brutales? Eh bien, la réponse, c'est que pendant la période finale où il y a suraccumulation du capital, le capitalisme et les capitalistes mettent en œuvre des palliatifs, et ces palliatifs, c'est le recours au crédit, c'est les excès de crédit, c'est l'aventurisme, comme il le dit, c'est la spéculation, c'est la concentration du capital, et qui permettent artificiellement, en quelque sorte, de maintenir un taux de profit élevé. Et quand cet artifice disparaît, eh bien c'est la crise, et cette fois la crise brutale. Quelques mots pour finir, revenant sur la crise actuelle. Eh bien, la leçon de Marx, en quelque sorte, c'est que si cette crise, qui est la crise actuelle, se présente, s'inaugure, comme il aurait dit, comme une crise monétaire et financière, il faut peut-être chercher derrière des causes plus profondes, non pas de la survenance de la crise elle-même, mais de ses développements possibles, de ses développements potentiel au-delà dans la sphère réelle. Marx lui-même, en tant que publiciste, en tant que journaliste engagé, mettait l'accent sur les questions monétaires et financières, et celles-ci sont pour lui fondamentales. Mais il faut bien voir que, à l'arrière-plan, en profondeur, les dimensions de suraccumulation du capital sont très présentes également. Et on peut étudier dans la crise actuelle ces phénomènes aussi bien en amont de la crise que nous connaissons qu'en aval. Et on peut dès lors faire une analyse ou tenter des analyses marxistes ou marxiennes de la crise tout en prenant conscience des différences majeures avec la période où Marx lui-même écrivait. Il faut en prendre d'autant plus conscience que, pour Marx, les crises et les formes prises par les crises, les caractères des crises, sont liés au caractère du capitalisme lui-même. Et par conséquent, comme le capitalisme a changé, qu'il est devenu lui-même un capitalisme financier, Marx serait évidemment le premier aujourd'hui à mettre l'accent sur ces modalités très différentes du capitalisme par rapport au capitalisme de son temps. Et il est tout naturel dès lors que les formes des crises aient changé. Dire que les schémas marxiens ne s'appliquent pas simplement à la crise actuelle, c'est simplement être fidèle à la pensée de Marx.
Merci beaucoup, Pierre. Donc on a été très rigoureux dans l'horaire, ce qui permet d'avoir maintenant au moins une demi-heure de débat avec vous. C'était le but de la manœuvre. Voilà, donc là, peut-être, donc essayez d'être court dans vos questions, excusez-moi.
Oui, comme nous-mêmes. Oui.
Ce sera court. Vous aviez annoncé comme programme une identification de traits caractéristiques de la théorie des concepts marxistes et puis ensuite une remise en cause dans votre démarche. Et ça a été un petit peu le cas, ça a été complètement le cas pour M. Orléans, mais je suis resté un peu sur ma faim, même si c'était passionnant, quant à la remise en cause des concepts en question pour les deux autres intervenants.
D'accord. Donc votre question, c'est en quoi les deux
autres... En gros, vous avez dit, bon, on pratique Marx, mais avec des distances et en D'accord. soulignant les limites. Okay. Mais vous l'avez présenté comme étant le programme D'accord. des trois intervenants, et c'est surtout le vôtre.
D'accord. Ok, très bien. Ça peut arriver. Ça.
Non, mais je peux répondre rapidement. D'abord, effectivement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, c'est normal qu'André Orléans ait présenté ça dans ces termes-là. Le problème, c'est effectivement la gestion du temps. J'ai donné quelques pistes en la matière, notamment en évoquant la réserve que je pouvais avoir sur la présentation classique de la théorie de la valeur travail. Je l'ai dit également à propos effectivement du statut du travail comme marchandise, même rebaptisé force de travail. J'ai insisté en revanche sur ce qui me paraissait être les points forts de la théorie de Marx telle qu'effectivement je peux la pratiquer dans mes propres travaux. D'abord sur cette distinction entre travail et salariat, sur cette idée d'une conception assez générique du travail que l'on ne peut pas ramener à une forme sociale, une institution sociale ou une valeur, et puis sur effectivement cette identification du salariat et les deux vont ensemble, parce que à assimiler travail et salariat, à mon sens, on ne comprend plus ni l'un ni l'autre. Donc voilà, effectivement, ma lecture de Marx dans ce qu'elle me paraît avoir de pertinent pour penser les enjeux d'aujourd'hui, ça n'empêcherait pas effectivement d'aller plus loin sur les dimensions critiques, les deux points que j'ai rappelés, mais le temps nous était quand même très limité.
Oui, juste un point, c'est d'autre part, cette question de la remise en cause n'était pas, je dirais pas que c'était un élément structurel de notre programme, en quelque sorte, il arrive que ça puisse se faire, mais c'était pas, disons, une condition de validité de notre marxisme qu'on puisse prendre distance avec lui, donc ça, évidemment ça dépend beaucoup des configurations et des processus. Je propose qu'on prenne plusieurs questions, comme ça, ça permet peut-être de les regrouper et donc de vous permettre de mieux intervenir. Alors, oui, il y a ici. Ah, pardon. Oui, pardon.
Alors, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes. Moi, je voudrais parler d'un autre spectre qui hante le capitalisme en ce moment, c'est celui de Keynes, dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais je vais vous donner l'occasion d'évoquer Keynes. Alors, ma question s'adresse aux trois intervenants, peut-être moins à M. Vatin, puisque Keynes n'a pas pénétré les ateliers secrets de la production. La question du travail n'est pas très présente chez lui, mais elle s'adresse plutôt à M. Dauquès et Orléans. Je voudrais savoir de quelle manière on pouvait relier Marx et Keynes dans la compréhension de l'ordre capitaliste, de la monnaie, et de la crise de la reproduction capitaliste. Quels sont les liens qu'on peut faire entre les deux auteurs? Quelle est leur actualité et comment on peut développer? Alors, c'est tout un programme de recherche, ce que je suis en train de vous poser comme question, mais très brièvement, comment on peut développer un programme de recherche pour penser la crise du capitalisme et de la monnaie, quoi. Merci.
Merci. Donc, il y avait une question ici. Oui.
Oui.
Le micro est déjà...
Ça va être aussi un gros programme, parce que... J'aimerais que Monsieur d'Orléans développe un peu, comme c'était un petit peu annoncé du reste dans le texte, la notion de contradiction, en dehors du problème de monnaie, etc. La contradiction chez Marx, et éventuellement, est-ce qu'il y aurait une relation aussi avec les notions de paradoxe des conséquences chez Weber, et d'effet de composition ou de choses comme ça chez Boudon ? C'est-à-dire toujours cette même idée selon laquelle il y a un résultat inintentionnel d'actes voulus et intentionnels, qui est finalement un des grands problèmes des sciences sociales. Et on retrouve éventuellement, mais sous une forme harmonieuse et providentielle, chez Adam Smith à travers la main invisible. Mais chez Marx, effectivement, on a le problème de la contradiction, et j'aimerais un développement sur cette notion de contradiction chez Marx. Merci.
Merci. D'autres questions au fond, ou... Je crois qu'il y a une question au fond. Il y en a d'autres
Oui, vous avez fait la distinction là, donc, entre rapport marchand et rapport de production. Et finalement, l'ambition forte de la théorie marxiste ou marxienne, je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est finalement libérer le travail de ce rapport de production ou de cette institution particulière qu'est le salariat. Alors, la question, bien sûr, c'est savoir voilà, quelle forme serait la plus adaptée pour réaliser ce travail qui serait plutôt libéré de cette institution qui serait marquée du sceau de l'exploitation dans le rapport capitaliste. Alors, bien sûr, dans un premier temps, c'est la forme communiste avec une propriété collective de moyens de production, mais je repense à un auteur comme André Gorz, alors qui a un statut un peu bizarre, on ne peut pas dire vraiment c'est un économiste et un philosophe, qui faisait donc en 1980 les adieux au prolétariat en disant que une appropriation collective des moyens de production avec un système industriel tel qu'il existait déjà dans les années 80 ne permettrait pas donc aux gens de se libérer de cette forme de travail qui serait aussi une forme d'exploitation, même si on serait plus dans un cadre capitaliste, étrangement. Donc ma question, alors, elle est très très large, c'est finalement quelle forme vous semble la plus pertinente pour avoir ce travail qui serait le plus libéré possible. Alors si ça peut servir de piste et de choses pour rebondir, c'est André Gorz parlait plutôt de coopératives de faible échelle, hein, donc ce seraient des petites entreprises avec des gens qui contrôleraient leur entreprise en quelque sorte de manière collective, mais pas dans un système global. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Merci. Je vois qu'il y a on va prendre une dernière question, monsieur, j'ai vu, et ensuite on fera un deuxième tour, si vous le permettez. Donc il y a ce monsieur là. Ici, devant. Vous pouvez lever le doigt, s'il vous plaît, pour qu'on vous voie. Et là, on va tâcher de...
Tu as raison. On fait la dernière.
Oui.
Petit tour.
Oui.
Facile. Oui, je veux bien. C'est OK.
Enfin, j'ai deux questions. Dans vos propres travaux, il y a, me semble-t-il, aussi des... Enfin, en tout cas pour ceux que je connais moins les travaux de M. Vatin, mais il y a aussi des développements qui ont à voir avec l'histoire même du capitalisme, c'est-à-dire ce qu'il est devenu depuis que Marx a écrit, depuis le 19e et le 20e, et sur lequel des marxistes ont pu apporter des efforts ou des propositions sur... Il y a tous les enjeux des cycles longs, tous les enjeux des crises d'accumulation durable ou plus structurelles, et tous les enjeux des modes de croissance et de renouvellement des modes de régulation. Un éclairage là-dessus, mais peut-être l'éclairage, c'est par rapport à la crise actuelle. Quelle est votre vision du dépassement du capitalisme ? Si l'on se met à la place de Marx, on dit quoi par rapport à la crise actuelle ? On dit le communisme plus que jamais, ou on dit autre chose? Qu'est-ce que c'est votre vision du dépassement du capitalisme, puisque c'est quand même l'enjeu de Marx, hein, le dépassement du capitalisme?
Bien, donc nous allons commencer par répondre à ces questions. Pierre, tu interviens sur ce qui te parle.
Pour quelques mots sur une question qui est évidemment immense sur le Marx, Keynes et ces spectres, ces deux spectres qui reviennent. C'est vrai que pendant la crise actuelle, on a un retour périodique de John Maynard Keynes et que ce retour a été extrêmement impressionnant. Marx aussi, bien sûr, on vient de le dire. Sur ces auteurs, évidemment, ils sont très, très différents, en ce sens que il n'y a pas eu véritablement de rencontre entre Marx et Keynes, en tout cas dans la pensée keynésienne. Et ça s'explique pour de très nombreuses raisons, dont les conséquences en sont lourdes, mais il ne se situe pas, je dirais, au même niveau d'analyse. Il y a une volonté de Marx d'aller voir ce qui est derrière les choses, alors qu'il y a un pragmatisme keynésien qui est des sens très différents. Et c'est peut-être cette différence-là qui est intéressante. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en revanche, les keynésiens, eux, ou des Keynésiens plutôt, ont été très marqués par la pensée de Marx. Sraffa, bien sûr, fondamentalement, John Robinson, Calder. Là, il y a tout un courant qui est très important. Il faudrait aussi citer quelqu'un qui est, non pas un keynésien, mais qui est Kalesky, qui est marxiste, et qui a accompagné Keynes plutôt qu'en disant qu'il est keynésien, puis qui est devenu lui-même keynésien. Il y a un keynésianisme radical qui, lui, fait cette synthèse ou l'attente entre les deux. J'ajoute juste un point pour être rapide qui est intéressant. C'est qu'il y a, curieusement, aussi bien chez Marx que chez Keynes, un aspect qui est curieux, effectivement, c'est que ni l'un ni l'autre ne s'est affronté aux crises directement. Et en particulier, l'ouvrage majeur de Keynes sur ce qui aurait pu être un ouvrage sur la crise des années 30 n'en est pas un. Et je crois que ça, ce point est intéressant. Et on ne trouve pas non plus chez Marx une théorie unifiée des crises. Là où Keynes parle longuement des cycles économiques, c'est dans un appendice à la fin de la théorie générale. C'est a priori un phénomène relativement étonnant. Quand même, Marx, de même, on parle tout le temps, elle est toujours là en quelque sorte, mais sans être jamais présente de façon totalement unifiée par une théorie qui serait la théorie de la crise.
Pour répondre aussi donc sur cette question du rapport à Keynes, pour moi, me paraît Keynes important, c'est précisément dans l'analyse des processus d'évaluation, parce que, comme je l'ai indiqué, il me semble que chez Marx, il y a une vision trop encastrée dans la vision classique et dans la vision de la valeur, qui fait que, au fond, son analyse de la finance, d'ailleurs, qui est peu développée, ne me paraît pas adéquate. Et donc, j'ai trouvé, moi personnellement, ce qui m'a semblé intéressant, comme vous le savez peut-être, chez Keynes, c'est toute sa théorie de la finance de marché et de la notion d'incertitude. Donc, tout ce qui tourne autour de la question de l'évaluation financière, on trouve beaucoup de choses chez Keynes, évidemment, chez Marx, vu son époque, il dit beaucoup moins de choses. Donc, c'est là que ça me semble important. Et aussi, d'ailleurs, sur la question de la monnaie et la question de la préférence pour la liquidité, qui apparaît beaucoup plus nettement chez Keynes comme l'expression de la crise, cette course à la liquidité ou ce rejet de la liquidité qui apparaît au cœur de la crise. Mais néanmoins, je dirais que du point de vue de l'architecture globale de la pensée, il reste néanmoins qu'à mon sens, le socle est constitué par les concepts marxistes, parce que, parce que Marx, plus que Keynes, me semble-t-il, a une vision globale du capitalisme à travers ses notions de rapports sociaux, et donc présente une vision plus unifiée, plus architecturée, plus dense et plus structurelle du capitalisme. Et donc, Keynes m'intéresse puissamment, mais j'essaye de le réintroduire dans ce cadre-là comme quelque chose qui permet de comprendre mieux l'évaluation et le rapport à la monnaie que, à mon sens, qui est la faille chez Marx. Et aujourd'hui, comme vous posiez la question aussi du rapport à la crise, on voit bien effectivement comment le rôle du prêteur dans le dernier ressort, pour aller très vite, mais enfin le rôle de la puissance monétaire a été extraordinaire et fondamental dans la gestion, avec cette question de savoir est-ce qu'il y aura une étape supérieure dans la crise qui sera sur l'expression monétaire elle-même, puisque la solution au fond c'est fondée sur la possibilité du pouvoir monétaire de financer les banques, de refinancer les banques, d'acheter des actifs pourris, etc. La question aujourd'hui semble être bien de savoir si la légitimité monétaire, en particulier du dollar, va pouvoir supporter ce supplément de problèmes qu'elle a absorbé. Donc on a bien cette question monétaire qui apparaît.
Oui, mais toujours quand même sur la question Keynes, hein, qui semble nous inspirer. Enfin, moi, dans mon exposé, Keynes était présent. Là, j'ai dû ne pas l'évoquer parce que, effectivement, Keynes n'est pas rentré dans l'atelier secret de la production, comme vous le disiez, mais c'est un des grands penseurs de l'institution salariale. Et il est à cet égard très proche de Polanyi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que le travail n'est pas marchandise est quand même au fondement de la théorie du chômage de Keynes. Donc là, il y a quand même un croisement à faire. Alors, autrement, pour revenir sur une autre question qui avait été posée à propos notamment d'André Gortz, oui, on peut continuer à réfléchir aux conditions de libération du travail, de dépassement du salariat, sans doute. Moi, j'ai voulu insister sur, ça c'est peut-être mon penchant de sociologue, j'essaye de penser le présent pour ce qu'il est, pas forcément dans l'optique, je dirais, de la transformation sociale directement. L'idée que la meilleure manière de faire advenir la transformation sociale, c'est d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui même. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que chez Marx, le travail était libérateur, pas simplement dans une espèce de projection mécanique, mais ici et maintenant. Et là, je crois que ça reste une idée extrêmement importante parce que ça nous invite à ne pas forcément penser le travail comme André Gortz l'a pensé, c'est un petit peu tout ce courant que j'ai évoqué, c'est-à-dire à d'abord essayer de penser le travail, encore une fois, excusez-moi d'être un peu répétitif, comme acte productif avant de le penser comme institution sociale. Ça n'empêche pas de penser l'institution sociale du travail ou les institutions sociales du travail. Mais d'emblée poser la question en ces termes-là, je pense que c'est fermer le débat.
Je vais aussi, il y avait d'autres questions sur la modélisation et de la contradiction chez Marx. Je m'y engage à pas prudent parce que c'est vraiment des questions qui ont tellement agité les penseurs, en particulier les philosophes, tout autour de la question du matérialisme dialectique qu'on ne sait pas très bien. Il faut vraiment être courageux pour rentrer dans ces débats. Je dirais quand même des choses simples, c'est que au départ, le concept au fond est beaucoup plus simple que contradiction, c'est celui de rivalité, l'idée de cette rivalité pour l'appropriation entre les producteurs marchands, donc conduit à une espèce de violence latente qui est tout le temps présente dans la société marchande du fait de ce rapport marchand qui est un rapport de séparation, c'est-à-dire où les acteurs sont chacun pour soi, séparés des autres, d'où le problème de leur reconnaissance sociale et de leur valorisation sociale. Donc ces premiers points diront très simplement de la modélisation de la contradiction. Là où je vous rejoins, c'est en effet dans l'idée, dans le rapport à la médiation, c'est-à-dire une fois que, comme les médiations ont cet caractère paradoxal, quelquefois nous parlons avec Aglietta d'ambivalence, puisqu'elles sont à la fois produites par les luttes sociales et en même temps ayant ce pouvoir normalisateur. Donc là, en effet, je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup le temps de développer, mais on rentrerait tout à fait dans ce que vous indiquez, des paradoxes qui proviennent de niveaux du système qui sont différents, avec des boucles autoréférentielles qu'on voit par exemple de manière très très présente dans les crises monétaires, etc. Donc effectivement, la médiation étant pensée comme une émergence du rapport social, il est à la fois dans une position d'extériorité, mais en même temps produit par lui. Donc il y a là des effets paradoxaux qui demandent à être analysés. L'autre question aussi où j'avais été impliqué, c'était sur les questions des modes de régulation. Alors évidemment, premièrement, le capitalisme s'est grandement développé et il me semble que le marxisme, au fond, a beaucoup de choses à dire parce que se développe développement, c'est un développement dans les modes de propriété. Le rôle du capitalisme financier, le rôle des actions, le rôle de la nouvelle gouvernance, des fonds institutionnels, c'est une transformation de la valeur actionnariale et tout à fait une transformation du capitalisme qui va dans un sens de transformation du rapport de propriété. On voit bien qu'il est central, ce rapport de propriété, bien qu'il ait une forme tout à fait paradoxale aujourd'hui, c'est qu'il passe par le marché. Le contrôle des propriétaires sur le capital, au lieu d'être un contrôle direct et majoritaire, comme on l'a connu en grande partie dans l'histoire du capitalisme, est un contrôle qui passe par le marché. Donc on a quelque chose de tout à fait important, et c'est évidemment un élément essentiel de la crise, dans la mesure où elle conduit à des exigences de profit complètement délirantes et qui sont un des éléments centraux de ce que nous avons connu, hein, les exigences de rentabilité du capital, et qui sont liées à cette forme particulière de propriété. Sur les questions du dépassement du capitalisme, mon point de vue, j'essayais de le dire, c'est que moi je me sens mieux en tant qu'analyste des conflits, en tant que donc essayant d'enregistrer autant que se faire se peut une réalité sociale à un moment donné, de contrôle et de rendre intelligible son évolution, que dans l'activité de prévision. Ça, c'est mon côté keynésien. Il y a un côté d'incertitude radicale et d'incertitude stratégique. Donc je n'ai pas forme de dépassement. Je suis marxiste d'ailleurs, même ce point de vue, en sentant que, comme le disait Pierre, qu'il y a bien un rapport, une contradiction entre les formes de la propriété privée et une exigence sociale et des rapports de production. Par exemple, on voit ça sur Internet ou des tas de choses où on sent qu'il y a un besoin de propriété publique. Mais je n'irai, pour ma part, je ne vais guère plus loin, mais je suis prêt à entendre ceux qui auraient des choses à dire là-dessus. Peut-être sur ces points.
Oui, deux mots sur ces questions. D'abord sur la question des contradictions chez Marx. C'est effectivement une question plus que difficile vers laquelle on s'engage avec prudence. Je ne sais pas dans quelle mesure le raisonnement dialectique qui était celui de Hegel, celui de Marx, reviendra avec la puissance qui fut la sienne en leur temps et encore relativement récemment. Cette pensée qui n'est pas celle du tiers exclu, pour employer une expression bien connue, est difficile à accepter. En revanche, sur les lois de l'histoire sur la dimension à la Boudon, comme tu le disais, je voudrais juste citer une phrase très, très fameuse qui est « Les hommes font leur histoire eux-mêmes, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». C'est un point important pour tous ceux qui voient Marx dans sa dimension exclusivement ou essentiellement déterministe. Marx n'est pas déterministe aussi mécaniquement, aussi naïvement qu'on pourrait souvent le penser. Et en particulier, ça me permet de penser à une dernière question autour de libérer le travail, André Gors, que j'avais un peu connu jadis, etc. Marx n'est pas déterministe en ce sens qu'il a précisé lui-même qu'il ne voulait pas faire bouillir les marmites de l'avenir. C'est un point important. Il précise même, en pensant à Auguste Comte, les marmites comtistes de l'avenir. Et il ne se veut pas qu'un Auguste Comte disant « voilà ce que sera demain ». Et en particulier sur le plan très précis de savoir ce que serait le mode de production après le capitalisme et cette fin de l'histoire dont il parle, eh bien il n'en dit pratiquement rien. Et c'est important parce que ce n'est pas, comme il le disait drôlement, effectivement, de Fourier, il n'a rien d'une grisette et il n'a rien non plus de Madame Soleil.
Merci. On va donc passer à une deuxième salle de questions. Donc, monsieur s'était inscrit tout à l'heure, ici, pardon. Levez le doigt pour que je puisse vous apercevoir. S'il y a d'autres questions, oui, allez-y, pardon.
Oui, bonjour. Oui, ma question portait justement sur le communisme, cette phase ultime de l'œuvre de Marx, dont on sait finalement assez peu de choses. Et moi, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé, parce qu'au-delà de l'œuvre théorique de Marx, il y a aussi évidemment la dimension politique aussi de son œuvre et le fait que c'est quand même au nom aussi de cet idéal qu'il y a eu des révolutions qui ont été conduites au cours du XXe siècle. Voilà. Et moi, je trouve finalement cette phase du communisme assez peu marxiste. Je la trouve un peu naïve même. Et je comprends pas comment finalement Marx a pu avoir cette chute. Alors vous avez dit finalement il veut pas écrire l'histoire par avance. Il laisse aux hommes le soin de le faire. Bien sûr, mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a un peu une contradiction entre toute l'œuvre de Marx et puis cette dernière phase que je ne m'explique pas vraiment. Alors, ma question, c'est comment expliquer qu'il soit resté aussi peu disert, qu'il ait aussi peu développé cette phase du communisme. Est-ce que c'est parce qu'il s'y intéressait finalement assez peu et que c'était plus les contradictions du capitalisme qui l'intéressaient, et son œuvre est d'abord et avant tout là. Moi, je suis d'accord là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'il était influencé aussi par les intellectuels de son époque, peut-être courant libertaire, anarchiste, et que finalement il rêvait un peu idéalement d'une société sans État, sans classe? Comment expliquer qu'il ait pu penser que l'exploitation est un phénomène aussi objectif et que la fin de la lutte des classes allait entraîner la fin de toute forme de rivalité, de conflit, quoi?
Merci. Donc, monsieur, et il y a monsieur au fond encore.
Moi, je voudrais poser une question. Il y a aujourd'hui des auteurs de différentes approches qui parlent plutôt de capitalisme pluriel que du capitalisme en singulier. Par exemple, les approches de la nouvelle sociologie économique. Aux États-Unis, par exemple, ils ont publié un livre qui s'appelle Economic Sociology of Capitalism.
Je vous signale, on vient de me dire, il reste 5 minutes, donc soyons D'accord. tous brefs.
Donc, il y a beaucoup d'approches différentes, soit dans la sociologie, nouvelle sociologie économique, soit dans la économique, par exemple, un acteur français, Bruno Amable, qui a publié récemment un livre qui s'appelle Les 5 capitalismes. Oui. Et moi, ma question, c'est de quelle façon, si vous pensez que ces différentes approches peuvent contribuer à penser l'actualité de Marx et de quelle façon ses contributions et ses limites à l'approche marxienne.
D'accord. On va prendre une dernière question. C'est monsieur qui est tout au fond à côté de la porte. Oui.
Je voudrais poser une question un peu personnelle aux trois orateurs. À quoi attribuez-vous l'éclipse pendant 20 ans de la pensée de Marx? Enfin, l'éclipse, pas chez vous, mais en général. Comment avez-vous vécu cette traversée du désert? Et pour esquisse de réponse à la première question, est-ce qu'un élément de réponse à la première question n'est pas la disparition d'un système économique qui prétendait s'être bâti au nom du marxisme?
Merci. Donc on va répondre à ces questions très brièvement. Pour répondre à la dernière, je crois que ça tient beaucoup à ce qu'on appelait le néolibéralisme qui a eu beaucoup d'effets en économie. Le socle des théories de l'équilibre général, de l'efficience, a complètement dominé entièrement notre discipline et a trouvé dans une certaine interprétation du monde qui l'entourait des raisons fausses de croire que c'était à juste titre. Donc, même aujourd'hui, d'ailleurs, il faut être quand même tout à fait clair que ces éléments, par exemple, pour cette réunion, nous cherchions des thésards qui aient travaillé sur Marx en économie, ça n'existe pas. Donc, il faut quand même être resté mesuré. Ce regain marxiste, c'est beaucoup dans les médias, chez les chercheurs, c'est pas encore ça, et en économie, c'est loin d'être, de faire l'unanimité. Ça reste encore totalement marginal. Je répondrai juste brièvement, puisque nous sommes sur la question du capitalisme, des capitalistes pluriels. Je trouve que ce type de travaux, évidemment, à mon sens, s'articule pleinement à la fois la sociologie économique et l'idée capitaliste pluriel, s'articule naturellement, je dirais, avec les démarches que nous avons présentées, dans la mesure où, en fait, son concept central, c'est celui de médiation, et donc de considérer, comme l'a fait la théorie de la régulation, qu'il y a des formes de médiation qui peuvent être différentes. Donc le rapport sociale va se gérer à travers des médiations institutionnelles qui peuvent être différentes. Donc l'idée qu'il y ait des invariants au niveau des rapports sociaux s'articule avec l'idée qu'il peut y avoir des formes historiques qui sont très très différentes. Donc là je crois que les régulationnistes ont tout à fait pensé ça, et ça me semble, dès lors qu'on reste dans le cadre des rapports sociaux et l'idée de la conflictualité, on apporte à mon sens quelque chose qui est dans ce courant, je ne sais pas s'il faut l'appeler marxisme, voilà.
Oui, par rapport à la dernière question, oui, bon, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait que c'est la disparition de Marx est très liée à la disparition d'une forme d'espérance communiste. Alors comment je l'ai vécu personnellement, très tranquillement, parce que j'ai continué à avoir le plus grand respect pour la pensée de Marx et à l'utiliser autant que ça me paraissait utile, mais je crois qu'au-delà, je dirais, de la grande espérance politique, il y a aussi effectivement ce qui a été évoqué, ce qui était un peu à l'origine aussi de la conception même de cette séance, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'auteurs, je dirais, nous ont présenté pendant longtemps Marx comme un texte quasi religieux, et je dirais ad nauseam. Moi personnellement, je ne l'ai jamais vécu comme ça, et ça m'a permis de continuer très tranquillement. Alors ça permet de revenir sur la question, à partir du socialisme réel et de son lien avec Marx. Moi je suis pas loin de penser à certains égards, tout à l'heure Pierre Doquet citait Auguste Comte, que l'histoire du socialisme réel tient beaucoup plus à certains égards, c'est plus de l'Auguste Comte réalisé que du Marx réalisé. Et donc il y a une histoire politique qui fait qu'on fait porter à Marx toute une série d'événements de l'histoire du XXe siècle, je pense, de façon assez arbitraire, si on s'inscrit dans une logique d'histoire de la pensée. Et par rapport au projet de Marx, à sa projection, à sa dimension strictement politique, il faut replacer les choses dans leur temps. On est assez étonné quand on lit ce qui figure dans le manifeste du Parti communiste. Les projets de transformation sociale qui figurent dans le manifeste du Parti communiste, on peut voir qu'à certains égards, elles se sont très largement réalisées. Hein. Autrement dit, alors bien évidemment, le manifeste du Parti communiste, ça ne présente pas le communisme final, mais si on regarde de façon assez précise la façon dont Marx se positionne dans la pensée politique de son temps, on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément à un niveau aussi stratosphérique qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, donc ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, penser Marx comme un auteur ordinaire, y compris en le recontextualisant. On l'a, en le traitant comme un texte religieux, on l'a trop décontextualisé aussi.
Il doit nous rester 30 secondes, parce que j'imagine que les gens vont sortir par ici, je les ai entendus applaudir, donc Pierre, tu as le dernier mot.
Ce dernier mot, je le dédouble. Premièrement, il faut bien se rappeler la volonté de Marx qui était de construire un socialisme scientifique, et cette dimension scientiste, on ne l'a pas souligné, mais elle est très importante dans son esprit, et il y a une volonté anti-utopiste, tout en construisant de quoi construire des utopies pour les autres, mais lui-même s'est toujours refusé à faire bouillir des marmites, comme je le disais. Quant à l'aspect de cette période dans laquelle Marx n'était pas présent, je veux dire simplement que c'est une bonne chose qu'on ait pu quand même revenir sur ce qui se passait à la fin des années 60, au début des années 70, où Marx avait envahi tellement massivement l'espace que je me souviens avoir fait une conférence dans ces années-là, mieux des années 70 encore, où j'intervenais sur l'erreur de Marx, et j'ai senti comme un frémissement négatif dans la salle en disant « Comment est-ce possible d'oser parler de l'erreur de Marx ?»
Bien, merci beaucoup.